Alors, ben, très bien, ben, merci beaucoup d'être là. Voilà, samedi, midi, enfin il fait beau et nous sommes enfermés dans une salle obscure. Quelle horreur! Donc, merci beaucoup donc, à nos invités, Julien Mancrani, Marc Sergas et Nicolas Duval. Merci au Nouveau Latina de nous accueillir pour le festival, la première édition de BD Ciné de Collectif Prod. Bonjour, bonsoir, merci. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'adaptation de. D'œuvres de bande dessinée au cinéma. On va évoquer plusieurs questions. J'aimerais commencer avec deux citations. Donc, vous savez que la Palme d'Or cette année est allée à Bleu d'Adèle de Kechiche, qui est une adaptation.
Tu mélanges les deux.
Comment?
La vie d'Adèle qui adapte.
La vie d'Adèle, ah d'accord, oui, quand moi. Donc en fait, en général, il y a juste le bleu. Voilà, donc le Kechiche qui est une adaptation d'une bande dessinée d'une jeune auteure. J'ai lu sur son site quelque chose qui m'a interpellée, donc justement, on va évoquer ces questions. Elle a dit, je lui, en parlant de Kechiche, je lui ai stipulé dès le départ que je ne voulais pas prendre part au projet, que c'était son film à lui. Peut-être est-ce qui l'a poussé à me faire confiance en retour. Et une deuxième chose, quoi qu'il en soit, je ne vois pas les films comme une trahison, parce qu'apparemment, c'est vraiment une libre adaptation de sa BD. La notion de trahison dans le cadre de l'adaptation d'une œuvre est à revoir, selon moi, car j'ai perdu le contrôle sur mon livre dès l'instant où je l'ai donné à lire. Voilà, donc c'est un objet destiné à être manipulé, ressenti, interprété. Donc ça, c'est toujours la question qu'on se pose avec une adaptation. Donc j'aimerais commencer avec Marc Sergas, qui est le scénariste du film Les Beaux Gosses. Donc comment est-ce que ça s'est passé? Donc là, on va parler de quelque chose qui a déjà eu lieu, donc qui est sorti. Donc voilà, toutes les galères sont terminées. Après, on va passer aux galères en cours. Voilà, donc dites-nous, comment est-ce que ça s'est passé
C'était pas l'adaptation, les Beaux Gosses, c'était un scénario original en fait. C'est l'univers d'Oriane Satou, ça ressemblait un petit peu à Retour au collège, ça se passe dans un collège, une petite histoire d'amour, mais c'est un scénario original, c'est-à-dire qu'au départ, on s'est rencontré, il avait commencé à écrire quelque chose, qui était sous une forme un peu cinématographique quand même, puis on a restructuré tout le récit ensemble. Donc c'est là où j'avais un truc de... Moi, je n'écris pas de BD et j'en lis très très peu, en fait. Donc moi, j'avais considéré ça comme vraiment un film, pas comme une BD éventuelle. Donc on a réfléchi en termes de temps, en termes de qu'est-ce qui se passe au bout d'une demi-heure, qu'est-ce qui se passe au bout d'une heure, c'est quoi le... Après, les questions dramaturgiques sont les mêmes, hein, soit en BD, en littérature, en cinéma, quoi. Quel est le personnage central, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qui le contrarie? Comment il va réussir à obtenir quelque chose? Est-ce qu'il l'obtient ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça, on l'a créé comme ça, quoi.
Est-ce que c'est la première fois que vous travaillez avec un artiste BD?
Oui, c'était la première fois, mais c'était pas la dernière. Parce que ma film a un peu marché, après j'ai pas fait une édition. Oui, ce qui était... je réponds à une question que vous ne posez pas, mais ce qui est un peu différent, mais ça m'a été confirmé après quand j'ai bossé avec Julien Niel, qui a fait Lou ou avec Monantico, c'est que finalement les gens qui font de la BD sont en général très rapides à prendre des décisions. Moi j'étais avec des réalisateurs aussi qui sont peut-être plus souvent dans le doute, qui sont plus souvent angoissés du résultat final. Le résultat final il va avoir lieu dans 6 mois, 1 an. Quoi. Quand on commence à écrire, le résultat final il sera sur pellicule ou sur... beaucoup plus tard, alors que les gens qui font de la BD, en gros, au bout de la journée, ils ont une planche, quoi, si, ou deux, s'ils se débrouillent bien. Donc ils auront fait des choix sur les cadres, après évidemment ça prend un peu de temps, ils font souvent des croquis, je sais un peu, mais une fois qu'ils se lancent dans le processus, c'est assez rapidement finalisé, quoi. Et tout est là, l'image, le texte, les couleurs c'est un petit peu après, mais voilà, alors que dans le cinéma, on écrit d'abord, après il y aura le casting, après il y aura la photo, après il y aura l'étalonnage, enfin ça va être beaucoup plus long. Donc en fait, moi, les gens de BD que j'ai rencontrés sont beaucoup plus rapides pour prendre les décisions, et ça c'est un vrai confort quand on travaille avec eux.
Donc même dans l'écriture, donc même, ouais. Parce qu'une chose c'est l'aspect visuel, donc ouais. Vraiment de dessiner les cadres, etc. Ouais. Voilà. Mais vraiment dans l'écriture, de s'asseoir, voilà, parler des dialogues et ouais. Tout ça, c'est pas la même chose, écrire les petites bulles voilà, sur une page, on va en parler tout à l'heure, ouais. Et puis écrire un scénario, je sais pas, de 100...
Ouais, mais ils ont sûrement pris tous l'habitude de prendre des décisions rapidement, quoi. À chaque fois, bon après, j'en fais pas de généralité, c'est quelque chose que j'ai remarqué, quoi. Pas tous comme ça, peut-être j'ai eu de la chance, mais la prise de décision est plus rapide. Quoi.
Et comment est-ce que vous avez rencontré donc, Riyad, comment est-ce que vous avez eu cette idée de...
Voilà, Bistro.
De... Bistro, comme ça, on va parler. C'est lequel, comme ça on va y aller, tout ça.
Le dernier ami commun, en fait, on s'était rencontré. Non, en fait, j'avais rencontré une séance de dédicace dans un bistro. Il dédicaçait la BD, en fait on avait commencé à discuter, moi je connaissais un peu ce qu'il faisait, lui connaissait un petit peu les films que j'avais coécrits. Donc en fait il m'a fait des compliments en signant la BD.
Et là vous avez flashé.
Ouais, c'est ça, c'est
d'accord. Et donc vous avez mis combien de temps, donc par rapport par exemple à l'écriture d'un scénario, vous écrivez seul, ou peut-être un co-scénariste, et donc justement sur Les Beaux Gosses, vous avez mis moins de temps à l'écrire ou...
Ça s'est étalé sur un petit moment, parce qu'on a, je me souviens bien, on a dû faire quelques pauses, oui, je sais plus, enfin, en fait, il a fait, lui, la première version dialoguée, moi, je repassais dessus un peu, mais c'est lui qui avait écrit, donc, il m'a envoyé des pages, puis à un moment, on s'est mis un petit peu de temps, je crois, entre le scène à scène, la structure du film sans dialogue qu'on avait écrit tous les deux, et le moment où il a commencé à écrire des relations dévoyées, qui m'ont envoyé, il s'est passé un petit peu de temps à ce moment-là. Sinon, oui, c'était un petit peu plus vite que après, ça prend quand même quelques mois. Hein. Faut réfléchir, faut prendre du temps. On avait dû commencer en plus avant les vacances. On avait de souvenirs. Quand on s'était quitté au mois de juillet, août, on s'était arrivé après en septembre. C'est, je ne sais plus, une petite année. Quoi.
Mais finalement, c'était moins longtemps que quand vous écrivez seul, par exemple, ou avec un autre scénariste.
Après, tous les projets sont différents. Hein. Quand on écrit des scénarios, ça se passe rarement deux fois pareil. Enfin, pour moi, en tout cas. Ça avait quand même été un petit peu plus rapide. Ouais. Ouais. Et en tout cas, c'est plus fluide. C'est ça que je voulais dire. C'est dans la mesure où il y a moins de doutes. Et puis après, c'est la personnalité. Déjà, Riyad Sattouf est quelqu'un, c'est assez. C'est vraiment bien ce qu'il veut. Donc c'était plus fluide dans l'écriture, c'était du travail, c'était pas trop plus de tête. Quoi.
Et lui, est-ce qu'il dessinait en même temps ou en fait, pendant que non, pas du tout.
Non.
Donc, bah, il avait tout en tête et donc ça lui permettait en fait vraiment d'avancer sur le scénario.
Ouais, oui, non, c'était un film, quoi, c'était pas une BD. L'aspect visuel, c'est venu après, quand il a commencé à chercher en termes de cinéma. Et, ouais, bon.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre projet actuel, donc sur... Sur
Loup,
alors
Loup, ça va être assez... Donc, c'est une BD qui fait un énorme carton en vente. C'est une BD pour les petites filles de 7 à 13 ans, je sais pas. Et il y a un producteur qui s'appelle Rod Valentin qui en a pris les droits il y a, je sais plus, un an ou deux. Et donc, Julien Hill, l'auteur de la BD, qui a fait 6 tomes de Loup depuis quelques années, voulait réaliser, enfin adapter, réaliser. Donc en fait, on était parti au départ sur le tome 4, puisqu'il se passait en vacances. C'était les petites filles en vacances, avec les premiers émois, avec les garçons, etc. En plein air, il fait beau. Et puis, on a commencé à bosser là-dessus, et puis on s'est dit, ah, il manque des trucs, mais on a peut-être autre chose à raconter en plus, etc. Et on a fait un truc assez étrange, finalement, quand on travaille une façon de travailler assez étrange. On jouait très sporadiquement avec Julien, parce qu'il y avait des fois à Paris. On prend des décisions comme ça, puis il réfléchissait dans son coin, puis on revenait, on discutait. Et ce qui se passe souvent, c'est... Et puis moi, il voulait que je lise tous les tomes qu'il avait écrits pour que je sois bien au courant. En gros, il me les mettait dans les mains, puis il attendait, croisait les bras, il attendait que je lise les envies. Et à un moment, on a vu qu'il y avait un élément intéressant dans le tome 2, un élément intéressant dans le tome 5, et puis en fait, une fois que moi j'avais bien intégré ce qui se passait dans la série, les 6 tomes, et avec lui, il avait bien réfléchi. On a pris des éléments ici et là, on a fait une espèce d'adaptation un peu sauvage où on a picoré quoi, dans l'ensemble de la BD, enfin, des 6 tomes, et donc on n'a plus du tout adapté le tome 4, on a adapté l'ensemble de l'œuvre hein, en laissant plein d'aspects sur le côté, puis en créant même d'autres hein, qui n'étaient pas forcément dans la BD ou qui pourraient donner quelque chose après.
Donc vous avez rajouté d'autres personnages, d'autres histoires.
On a raconté pareil, les quelques, oui, les quelques éléments qu'il y a dans les sitcoms. Moi, on a toujours joué des personnages un petit peu hein, secondaires, oui. Les personnages principaux sont les mêmes, quoi. Simplement, ils étaient étalés sur plusieurs épisodes, et là, ils sont concentrés sur un épisode, enfin, un épisode de l'ensemble, quoi. On a enlevé des trucs, il n'y a pas de petit frère dans le film, alors qu'il y en a dans la série. Donc, on a recréé une espèce de temporalité comme ça aussi.
Et donc là, le travail avec le Julien, voilà, se passe bien. Donc il est là, je ne sais pas, oui, justement ce que Philippe Barrault disait. Donc voilà, je te donne mon œuvre, t'en fais ce que tu veux, c'est ton film. Ouais. Est-ce que là,
voilà, tout le monde n'est pas comme ça. Ouais. Julien, il va le réaliser, le film. Donc voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il veut faire aussi, mais comme Riyad avec son famille, il veut faire un film. Quoi. Il veut pas. Donc il y a l'esprit de la BD, c'est vraiment l'idée de, oui, d'intégrer ce qu'il y a dans toute la BD, puis d'oublier, d'en ressortir une histoire après. Et après, évidemment, visuellement, ce sera les mêmes décors, etc., mais ce ne sera pas exactement la même chose. Quoi. Il en a des idées plus précises maintenant. C'est, voilà, il a switché en mode film. Et ça va être différent. Quoi.
Donc là, il n'y a pas de tension particulière, parce qu'il y a des dingues. Est-ce qu'on a le droit de le savoir quand même?
Non, je dois dire. Non, ça se passe très bien. C'est pareil, c'est quelqu'un qui prend la décision vite.
Et est-ce que, comme malheureusement personne de la SACD n'a pu venir, est-ce que vous pouvez nous répondre juste à deux, trois petites questions juridiques? Juste d'ordre général. Donc voilà, maintenant donc vous avez donc un artiste BD qui va réaliser et qui est co-scénariste. Vous aussi, vous co-être libre. Comment ça se passe en fait contractuellement? Qui doit signer quoi, etc. Et de producteur, est-ce que vous savez
ça se passe pareil. Enfin, c'est le même type de contrat à chaque fois. Parce que je peux vraiment connaître un contrat de cession de droit. Et oui, sur le contrat, il est stipulé d'après la bande dessinée de producteur commande une œuvre au co-auteur, d'après la bande dessinée de Julien Niel. Il n'y a pas plus de contraintes que ça. Après, sur le partage des droits SACD pour les droits d'auteur, je pense que c'est comme pour toi, qu'on adapte un bouquin. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a, je sais pas, 40%, 50% pour l'éditeur. Et puis après, on se répartit ce qui reste. Quoi. On n'est pas là, le film n'est pas fait encore. Et sur les blogueurs, c'est pas ça original, donc il n'y avait pas ça, l'éditeur de Retour au collège, je crois, on a touché, qu'on a partagé en deux les droits d'auteur après, donc c'est le film est terminé.
D'accord. Et est-ce que, voilà, donc le film, il est prévu pour quand?
Tournage en octobre.
En octobre, ouais, ouais. Donc sorti l'année prochaine.
Une bonne année après, je pense.
Une bonne année, oui. Est-ce que ça s'annonce difficile comme tournage?
Non, mais c'est toujours très long, enfin, il faut tourner déjà. Je sais pas, un tournage en moyenne c'est de 8 semaines. Hein. Après il faut monter. Le montage ça peut être long. Ouais. Et puis après il faut trouver la bonne date de sortie. Quoi.
Ouais.
Ouais. Et là c'est une coproduction de Valentin, Bruno Lédy qui est le producteur de Capiche aussi. Et Studio Canal, donc un gros studio qui sortira le film avec beaucoup de frais de sortie, beaucoup d'argent, et donc ils vont essayer de. À mon avis, les bonnes dates, c'est les vacances scolaires, mais on ne sait pas ce qu'ils vont se dire.
Oui, donc
l'année prochaine. Ouais, ou Noël, quoi.
Noël, voilà.
Ouais,
en fonction de l'histoire, peut-être.
Ouais, c'est spectacles familiaux. Ouais. C'est des trucs où les gens. Enfin, je pense que les financiers qui ont lu le scénario, bon, je trouvais ça bien, quand même, ils sont surtout dit que, voilà, il y avait. Les petites filles achètent ces albums depuis des années, elles vont aller le voir au cinéma avec au moins une copine. Ou leurs deux grands-parents, enfin, à chaque fois c'est deux fois tickets.
Ah, ils ont fait des bonnes
statistiques. Par trois.
C'est ce qu'ils font, ouais, bien voir. Sûr. Oui. Et est-ce que, donc une dernière question, après je vais passer la parole à Nicolas. Est-ce que, donc une fois que le tournage sera en route, est-ce que vous allez aller sur le plateau? Est-ce que vous avez l'habitude d'aller surveiller un peu, entre guillemets, ce qui se passe ou,
Non, j'ai joué dedans, il m'a dit qu'il allait me faire un petit truc. Je faisais une petite apparition dans les beaux gosses, mais j'étais déguisé, ma mère n'a pas reconnu. Mais non, il ne faut pas aller sur le tournage. Là, pour le coup, c'est un peu la même chose. C'est qu'à un moment, un scénario, c'est fait pour disparaître à un moment. Quoi. Il se retrouve dans le film, un scénario, c'est un instrument de travail qui doit à un moment être mis à la poubelle. Quoi. Il reste après sur l'écran, il reste de façon plus ou moins diffuse. Et c'est comme ce qui structure le film, quoi. Mais il y avait après. En plus, moi j'aime pas ça, je l'ai déjà fait sur d'autres films quand j'allais sur le tournage, parce qu'il y avait un film où qui se tournait vers chez moi il y a quelques années, j'y allais souvent, puis c'était une bonne amie, j'avais pas de personnage. Et la script me chopait, on me dirait, ah, le comédien veut changer une phrase et tout, qu'est-ce que t'en penses? Et ça, en fait, ça me saoulait, quoi. Je pense qu'il y a un moment, c'est là vraiment la responsabilité du réalisateur, au moment de choisir, quoi, et de tenir ses comédiens, ou de leur laisser plus ou moins de liberté. Mais moi, j'aime pas tellement ça, quoi, en fait. Alors, j'y vais pour quand les gens sont sympas et qu'il y a une bonne ambiance et que la consigne est bonne, mais oui. Voilà.
Mais là, en fait, justement, donc là, c'est une co-écriture et une adaptation en plus. Et donc là, si justement pendant le tournage, ils se rendent compte, oh mon Dieu, mais toute cette scène, mais ça va pas du tout, il faut la réécrire entièrement. Est-ce que du coup, il faut participer à ce genre de réécriture d'urgence?
Oui, on évite en général. Enfin, en général, on va bien réfléchir avant pour pas que ça arrive. Hein. Et c'est un petit peu comme. Ouais. Bah, c'est jamais arrivé, je crois, jusque-là. C'est chouette.
Très bien, ben. Merci beaucoup, Marc. Donc voilà, j'aimerais passer la parole à Nicolas. Voilà, donc Nicolas, toi tu travailles sur l'adaptation de Peter,
ouais,
de Régis, voilà, Amazon. Donc je sais que c'est une aventure, voilà, une vraie aventure. Donc est-ce que tu peux nous dire déjà comment tu as eu l'idée de faire, de travailler sur ce projet, comment tu as contacté Régis, comment ça se passe, voilà.
Donc déjà bonjour à tous. Oui, en fait, moi c'est une BD, je suis un gros lecteur de BD en fait, avant. Je dessine un petit peu et effectivement c'est une BD qui est super culte et phare pour moi en fait, parce que c'est une vraie réécriture de Peter Pan, et il y a un côté sombre et tout que j'aimais beaucoup, et c'est vrai que par rapport à la réalisation je me suis dit c'est un projet que j'aimerais voir déjà en tant que spectateur et pourquoi pas réaliser. Donc en fait j'ai fait un petit court métrage avant et j'ai enchaîné directement sur l'envie de réaliser le long métrage de Peter Pan, mais ça se passe pas aussi simplement que ça, en fait. Donc j'ai rencontré l'auteur et puis il m'a dit ce serait bien de faire un petit pilote, déjà pour voir un petit peu comment tu vas interpréter aussi ma BD. Donc voilà, en fait, ça s'est passé comme ça. Après, il était assez enthousiaste du truc, parce que c'est vrai que j'ai rencontré pas mal d'auteurs de BD, et c'est vrai qu'ils adorent le cinéma. Ils ont une envie cachée de voir leur BD adaptée, beaucoup, beaucoup. Et donc Régis, pour lui, c'était quelque chose d'intéressant. Sachant que... donc Régis Loisel avait déjà eu des demandes d'adaptation avant, il était un petit peu déçu, il y avait eu un teaser qui avait été fait pour le tome 6. Et voilà, donc j'ai dit bah allons-y quoi. Voilà, donc après au niveau de la collaboration avec Régis Loisel, hein, il m'a plutôt il m'a laissé la carte blanche en fait. Il m'a dit il y a juste Clochette que j'aimerais vraiment valider. Parce que c'est vrai que c'est un personnage emblématique de la DD. Voilà. Et donc voilà, hormis ça, c'est vrai que moi je lui ai envoyé pas mal de trucs sur les acteurs, des documents. Il avait lu le script et puis il m'avait dit bah, vas-y quoi.
Donc là le scénario
il
est prêt en fait, toi tu l'as écrit sur le
pilote, sur le pilote ça a été tourné, moi j'ai senti le pilote l'année dernière, il a pas mal tourné et puis voilà, donc déjà dans le pilote il y a eu des réinterprétations en fait de scènes, parce que je pouvais pas prendre les 6 tomes d'un coup et en faire 15 minutes, c'était impossible. Donc du coup j'ai vraiment réutilisé certaines séquences et j'en ai créé d'autres en fait pour justement voir jusqu'où on peut pousser l'adaptation et aussi la compréhension du pilote finalement, parce que je voulais pas non plus en faire un espèce de bande-annonce, même si voilà, donc je voulais un petit fil rouge où on voit Clochette qui part, pourquoi elle part en fait de l'île imaginaire chercher un sauveur qui est un petit Peter, un petit gosse des banlieues de Londres en fait. Et voilà, et ça s'arrête sur une fin ouverte pour dire est-ce que ça marche déjà par rapport à l'auteur, si il a la même vision que moi, s'il voit ça, et puis ça, c'est un laboratoire en fait, avant de passer au long.
Et le court-métrage que tu as réalisé, est-ce que tu l'as fait avant de contacter Régis ou est-ce que tu as...
Non, en fait j'avais déjà casté des acteurs, histoire de ne pas arriver en fait les mains dans les poches, parce que c'est vrai que c'est un auteur assez connu et je voulais pas arriver, tiens, je vais adapter ta BD. Je voulais que ce soit en fait fait dans, on va dire, le plus carré possible et le plus professionnel possible. Donc j'avais fait tout un dossier, j'avais casté Corinne Maziro pour la mère de Peter, histoire qu'il voyait un petit peu des choses comme ça. Et puis je lui ai montré, il m'a dit bah ouais, allons-y, quoi. Allons-y. Donc voilà, et puis juste pour revenir sur l'écriture, tu me parlais de l'écriture en fait, donc l'écriture du long est en cours. Et là pour le coup c'est Régis Loisel qui a réécrit. Donc et voilà.
Donc vous écrivez pas ensemble?
Non, il écrit en fait. Parce que du coup ça. En fait, ce qu'il m'avait dit, c'est que pendant 14 ans, il a fait la BD, il n'avait plus en entendre parler, parce que c'est vrai que ça lui a pris beaucoup de temps. Et le fait de faire une relecture, et puis sur un média un peu nouveau, et tout ça, ça lui a redonné en fait l'envie. Puis c'est vrai qu'il en a marre de la BD, il en a marre de dessiner, tout ça. Donc c'est quelque chose qu'il veut essayer. Donc du coup, il écrit en ce moment.
Voilà. Donc il écrit, donc là il essaie de faire donc, voilà, un scénario des 8 ans, ou est-ce qu'il est en train de changer des choses? Est-ce que tu es au courant de tout ce qu'il fait? Ouais. Comment est-ce que vous travaillez?
On a un premier traitement en fait, qui sert justement à démarcher les producteurs plus le pilote. Et en fait, c'est bien, c'est qu'il a engagé en fait sa BD. Il y a certains trucs qu'il remet, mais il a créé d'autres choses en fait. Donc ça c'est assez intéressant. Et puis c'est vrai que par rapport, en fait, il y a deux mythes qui se croisent dans la BD qui sont Jack l'Éventreur et Peter Pan. En fait, ça lui est venu, l'idée lui est venue en fait avec une rencontre avec Pierre Dubois, qui est comte de crime et tout ça. Et quand il lui a dit Peter Pan c'est Jack l'Éventreur, Régis Loisel a fait wow. Finalement, ouais, c'est ça. Donc finalement, c'est venu, je crois, au troisième tome. Et donc là, du coup, la réécriture prend cette base dès le début, en fait. Donc,
et, voilà. Et quand toi, tu l'as approché, est-ce que tu lui as proposé de co-écrire?
Moi, je ne me considère pas en tant que scénariste. En fait. Je lui ai dit, moi, je suis plus dans des idées, des machins comme ça, mais en vrai, je ne suis pas scénariste, j'ai pas tout ces... Donc je vais apprendre au fur et à mesure. Mais voilà, je ne me considère pas comme ça.
Et le court-métrage que tu as tourné, donc est-ce que, avant de tourner ton court-métrage, voilà, donc sur son univers, sur Peter, est-ce que tu as approché déjà Régis à ce moment-là, ou en fait avant de tourner ton court, ah, est-ce que tu... D'accord, ok.
Ouais, ouais.
Et il était d'accord que tu le fasses, voilà.
Il y a juste
à
la
tes
partie... donc il y a juste la partie effets spéciaux que je ne lui ai pas montré, donc il y a pas mal de... il y a eu une année comme ça où il n'a pas eu trop de nouvelles,
ah, oui.
Et quelques matte paintings, parce que c'est... Finalement, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas trop l'intégration et tout ça. Donc, même l'ours de base, ce qu'on appelle l'ours, c'est le premier montage avec plein de fonds verts et tout ça. Je ne lui ai pas montré parce que, voilà, sauf certaines séquences, on va dire celle de la mer, où il y avait vraiment du décor. Mais je ne voulais pas qu'il se dise, c'est vrai. Alors, même ma mère, quand elle l'a vu, elle a fait, c'est bizarre, les plaques bleues et tout ça. Mais...
Ah, il faut avoir de l'imagination, c'est
ouais,
sûr.
Ouais, ouais.
Et donc, tu as travaillé tout seul sur ce court-métrage alors comment tu as fait? Alors, comment tu l'as financé? Parce que c'est un travail énorme. On peut le voir d'ailleurs, il sera projeté ici
demain soir.
Voilà. Et on peut voir un extrait aussi sur internet, je
ouais,
crois.
Ouais, ça, les voilà. Premières minutes.
Et donc, c'est un travail vraiment énorme. Donc, comment est-ce que tu. Enfin, combien de temps ça t'a pris? Comment est-ce que. Voilà.
En fait, ça m'a pris 3 ans entre la rencontre de Régis Loisel et la sortie. 3 ans et demi. Avec toute. Enfin, j'ai eu de la chance de trouver un mécène parce que c'est improduisible en France, le format pilote, en fait. Ce qu'on appelle le format pilote, c'est quelque chose qui ne peut pas, en fait. C'est pas vraiment un court-métrage. Je sais que j'avais vu la scène de la cigarette de Sin City ou la scène de 300 et tout ça, et je pense qu'il fallait, même des gens comme ça font montrer un petit peu ce qu'on peut faire, font ces choses-là. Donc du coup, j'ai pas eu d'aide en soi. J'ai donc trouvé un mécène qui m'a donné 75 000 euros en fait. Donc ça permet de...
C'est qui?
Je donnerai le nom là-bas. Voilà.
Ouais.
Je crois que bah, du coup c'est la première et dernière fois du coup, parce que c'est vrai que c'est... Mais en tout cas ouais, je le remercie puisque vous donnez une valise de 75 000 euros pour faire ça. C'est...
Sur le pont neuf.
Voilà, c'est ça.
Il récupère son argent en fait.
Bah si, c'est vendu en fait. Donc ça c'est plutôt cool, mais sur la longueur.
Le court-métrage.
Ah ouais, il est vendu sur Premium Film et tout ça. Donc,
on va préciser que le film il passe demain soir.
Je viens de le dire.
Donc voilà, donc un mécène, donc ce qui a permis finalement d'acheter tout le matériel, de l'arranger grand, que finalement les conditions de tournage se passent le mieux possible. Et après, on n'avait plus rien pour faire les effets spéciaux. Donc là, pour le coup, c'était vraiment à la quête de gens de post-prod, faire les effets spéciaux et tout ça. Et voilà. Donc ça a duré beaucoup plus longtemps, on a eu 2 ans pour les effets spéciaux, parce que c'est vrai que c'était des jeunes qui sortaient d'école, qui ont dit ok, on prend le truc, et puis voilà, il y a tout un processus. En plus j'ai fait ça à la maison, donc recevoir les rushs, les envoyer, ça prend énormément de temps, voilà, parce que c'est assez lourd. Et puis voilà, ouais, et puis on y croit, et puis on est jusqu'au bout.
Surtout ça. Et
Régis,
c'est pas
impatienté
un peu
si, c'est
genre, c'est pas possible. Pourquoi ça dure aussi longtemps? Moi, je prends mon crayon, je dessine le machin et derrière.
C'est ça, en fait. Moi, j'ai discuté avec pas mal de personnes, justement, comme Vincent Maillet qui reprend la quête de l'oiseau du temps, ou des trucs comme ça. Ou Mohamed Aouamri qui avait justement fait le tome 2 de la quête de l'oiseau du temps. Pour Régis Loisel, il n'était pas assez rapide. Donc c'est vrai que entre faire le storyboard, machin, ça va beaucoup plus vite en soi, même si c'est long, hein, le processus de BD. En plus, Régis c'est quelqu'un qui retravaille énormément. Voilà, même si vous parliez justement, ça va vite dans leur tête. Mais le lendemain, ils regardent leur planche. Ah bah finalement on va découper un petit peu, on va recoller les trucs. Et bon, finalement on peut pas faire ça en fait, on peut pas dire dès que le décor il est cassé. Donc ça aussi,
comme ça, donc,
je les casse en fait. Oui, ça doit être ça. Non, il faut que tu aies le calme là, je pense.
D'accord. Donc voilà, et puis bah non, en fait, je pense que même si le temps est assez long, au final le film il sort, c'était ça le vrai challenge, c'est de réussir à finir le film, et puis il l'a vu, et puis...
Donc maintenant, elle comprend. Est-ce que maintenant elle a compris le processus de fabrication qui est extrêmement long, surtout en animation?
Je pense pas tout, en fait. Ouais. Je pense qu'il a quand même acquis des choses, mais je pense qu'il a pas. En fait, c'est quelqu'un qui vient énormément de la BD, donc je pense pas qu'il ait tout ce process dans la tête de se dire il y a tout un casting, il y a tous ces gens-là d'un seul coup. Eux, ils sont 2, 3, un scénariste. Ouais. Un dessinateur et puis finalement un coloriste et puis un éditeur qui les embête pas trop,
ouais.
Que là on, sur ce genre de projet il y a peut-être 2, 3 producteurs, il y a pas mal de choses, donc
200 techniciens,
c'est ça, donc c'est pas la même logistique et c'est pas la même approche des choses, parce qu'il faut que tout le monde suive et comprenne finalement là ce qu'on est en train de faire, hein. donc voilà.
Et là, il en est où alors avec son scénario? Est-ce que vous voyez régulièrement? Toi, de ton côté, comment est-ce que tu avances sur le côté réalisation? Est-ce que,
Moi, à l'heure actuelle, en fait, je prépare d'autres projets. Ça, c'est parce que c'est vrai que là, pour le coup, en fait, le projet est signé en fait avec un producteur, mais c'est un processus assez long, sachant que le producteur a pas mal de projets avant, donc il y a toute une recherche de financement, de choses comme ça. Et du coup, moi, plutôt que d'attendre, je prépare d'autres projets. Et puis voilà, je pense que le pilote en soi, plus le traitement qui a été fait, est déjà une espèce de ce qu'on dit, c'est package. Déjà pour voir s'il y a des gens intéressés. C'est vrai qu'après le pilote, moi l'année dernière, il est sorti en janvier 2012. J'ai rencontré des gens en fait sur Paris qui étaient intéressés. Mais voilà, il y a tout un processus. Donc moi l'idée c'est de grandir aussi avant de faire un projet aussi ambitieux. Parce que c'est vrai que c'est un projet quand même qui nécessite beaucoup de moyens, en fait. Donc voilà, c'est faire un premier nom. Après, on a proposé d'autres adaptations de BD. Et c'est vrai que sur l'adaptation de BD, ce qui est intéressant, c'est comment l'adapter, justement. Parce qu'il y a tout ce visuel, plus l'histoire, ce qu'on n'a pas dans les romans, en fait. Donc on a deux contraintes, finalement. Deux avantages. Parce qu'on avait directement le visuel, mais deux contraintes en soi, justement, est-ce qu'on va vraiment adapter ce qu'il y a en image ou se décaler, enfin il y a tout un truc comme ça. Donc sur Peter Pan, moi l'idée c'était vraiment de garder tout cet univers et de le moderniser un petit peu, et de garder ce côté-là. Sur les autres projets, il y a plus de décalage, par exemple. Okay. C'est pas le personnage, il a cette tête-là, on va mettre plein de maquillage et il sera comme ça.
Donc la question en fait c'est, est-ce qu'on dissocie les deux arts, donc il y a le cinéma d'un côté et la BD de l'autre, et on fait, si on fait un film, on fait un film, ou est-ce qu'on on essaye un peu de mélanger, voilà, ou est-ce que, voilà, on fait une animation, comme tu as fait un peu, on peut voir ça très très bien dans ton...
Et c'est pas le même média, c'est-à-dire qu'en fait, on est une heure et demie ou deux heures dans une salle, avec des rebondissements, des twists, des choses comme ça. Sur une BD, on peut passer des pages, et voilà, alors que là, il faut garder l'attention d'un spectateur et amener les choses au bon endroit, au bon moment. C'est pas qu'on se dise, bon, là, c'est enfin, comme la scène de Pan qui raconte l'imaginaire. Enfin, c'est 3-4 pages, c'est un problème de mettre ça parce qu'il parle tout seul pendant 20 minutes. Ouais. Enfin,
c'est un peu compliqué chiant, au quoi. Cinéma, ça. Le mec, il est
là. Bah, voilà. Mais sur le visuel, par contre, je veux garder le côté visuel de. De Peter Pan, qui moi j'ai eu la chance d'avoir vraiment des acteurs qui ressemblent à comme des blancs secs, finalement il fallait mettre des couches d'effets spéciaux, enfin de maquillage. Donc là c'était vraiment essayer de garder un petit peu le visuel. Et puis c'était un vrai challenge parce qu'il y a quand même beaucoup de lecteurs de la BD, donc du coup si on décale trop sur un pilote c'était un peu casse-gueule, donc c'était sur le bord de la falaise en fait.
Et est-ce que tu sais, donc Régis il écrit tout seul dans son coin, il n'a pas un peu du mal à passer de, je sais pas, de, parce que c'est la première fois qu'il écrit un
scénario. Si, le premier traitement que j'ai vu, on voit qu'il a envie de mettre des choses de la BD, effectivement. Mais il arrive à se décaler encore, mais je pense qu'après c'est un vrai travail avec un vrai scénariste, des vrais apports d'idées ou des choses comme ça, par exemple. Ce qui est génial, c'est que j'avais dit ce qui serait bien, c'est de corréler les... avec James Barry, donc du coup James Barry a un petit clin d'œil à la fin du truc, et Bloody et des choses comme ça. Il n'a pas mis les Indiens, par exemple, parce que du coup, c'est vrai que entre Clochette qui est jalouse, Listigré qui est jalouse, ça fait beaucoup de jalousie, mais du coup, c'est pas la vraie histoire, finalement. Donc il y a des choses comme ça qu'il arrive à faire le deuil, donc il met de côté, et puis voilà, même si on les voit au loin faire du feu de camp, mais finalement, c'est pas le principal histoire. Donc il arrive à faire des choses, mais il y a des choses qu'il garde. Et puis bon, c'est un travail au fur et à mesure. Donc,
mais est-ce qu'il est bien, il est bien conscient qu'il va devoir travailler avec un scénariste, hein?
Je pense qu'au bout d'un moment, il va laisser un petit peu le truc au scénariste et tout ça. C'est vrai que c'est son bébé.
Parce que là, on a l'impression qu'il n'a pas trop envie de lâcher trop. Voilà. C'est ça, et ça, c'est tout le contraire de ce que Julie Marot disait dans son.
Ah oui, non. Ça, c'est justement, c'est pas du tout la même approche. Je pense que c'est aussi un travail sur le temps, finalement, où il va s'apercevoir que c'est pas les mêmes codes, c'est pas, je parlais justement de rebondissement et tout, puis on peut pas tout raconter. Moi j'ai lu le traitement, mais c'est parti sur 3 heures.
Là peut-être qu'on sait, ils ne se rendent pas compte sûrement, voilà. Ah, c'est, et c'est
une
voilà.
Ligne, pareil, ça vaut 10 millions. C'est facile d'écrire, c'est facile de dessiner plein de lignes, foule de personnages et tout ça, mais après, faut voir. Faut voir en vrai.
Est-ce que tu penses que ce projet se fera en France ou plutôt à l'étranger, peut-être aux États-Unis? Est-ce que...
Là, le producteur, en l'occurrence, il est canadien, donc il a des contacts avec les prods françaises, donc on verra bien. Après, c'est vrai que c'est pas du tout la même approche de faire ce film en France ou un côté européen, plutôt que commencer à aller dans l'anglais et tout ça, et se dire, du coup, c'est pas les mêmes acteurs, c'est pas les mêmes conditions, c'est pas les mêmes... Il y a toute une logistique aussi, et puis d'accord monétaire qui est en France, machin comme ça. Donc moi, ce que je pense qui serait bien, ce serait la Belgique, parce qu'ils adorent la BD là-bas, la France et puis le Canada. Donc, je pense que ça va peut-être se faire comme ça. Après, moi, je suis pas producteur. J'attends, puis voilà.
Mais lui, en tout cas, enfin, il écrit quand même quelque chose de très européen dans ce cas.
Ah, tout à fait, tout à fait. Non, il y a pas mal de... Enfin, en même temps, il y a tous ces codes-là de mythes, justement, de Jack l'Éventreur et tout ça, et de Peter Pan. Américanisé, on va dire, Jack l'Éventreur, il comprendrait pas, même si c'est en sous-lecture, qu'il y a ce rapport entre les deux. Après, il faut être malin, faut pas dire... Enfin, c'est pareil, il y a des scènes super dures dans la BD, qu'on peut pas montrer... Même en France, j'ai envie de dire. Là, du coup, on est à moins de 18 ans. Et c'est pas Gaspard Noé ou Larry Clark. Enfin, je pense qu'il faut quand même être un peu plus global que ça, mais en même temps garder ce côté dur de la BD qui est justement intéressante pour la compréhension des personnages, de leur psychologie. Et voilà, donc non, je pense que cette config-là, c'est intéressant parce qu'il y a ce côté auteur aussi en France. Je ne sais pas si ça s'était produit en Amérique. Enfin, c'est ce que je crois. Hein. Voilà.
Et donc là, vous êtes parti, donc est-ce que tu penses 5 à 10 ans?
Ouais, bon. Peut-être un peu moins, je pense.
Je sais pas, le temps qu'il termine le scénario, le temps qu'il se mette avec un scénariste, le temps qu'il lâche vraiment un peu son bébé, le temps que. Voilà, tout ça. Donc c'est 5 à 10 ans. Là.
Non, je pense qu'il y pense même pas. Vu que lui, il sort une BD par an, il
doit se dire
ça va aller vite et tout ça. Mais effectivement, l'écriture d'un scénario.
Non, mais surtout, vous voulez faire de l'animation, etc. Donc il y a des effets spéciaux. Enfin, il y a énormément, c'est pas comme. Voilà, aller 8 semaines en tournage, hein, c'est pas du tout pareil. Donc,
ouais, après, je vais pas trop lui faire peur.
Ouais, c'est ça.
Donc, t'as
mis ouais, d'accord, ok. Très bien, bah, merci beaucoup.
Bah, merci
donc,
à vous.
Je vais passer la parole à Julien.
Bonjour.
Alors, toi, tu as fait, est-ce que je peux dire une adaptation sauvage, entre guillemets, non?
Ça me plaît bien.
Voilà, sans demander les droits. Non.
Plus compliqué que ça.
Un peu plus compliqué que ça. Alors, vas-y, raconte. Ça, c'est intéressant.
Du coup, c'est j'imagine que c'est Oxford, mais
exactement.
Juste reconnecté avec avant.
Oui.
En gros, il y a quelque chose comme 5 ans, j'ai adapté avec mes potes, clairement à l'arrache, juste par passion, une histoire originale dans l'univers de Batman. Et ça nous a pris 2 ans et demi, on en est sorti heureux et malade, mais c'était vraiment une étape importante. On l'a mis sur Internet, à une époque où on se disait Internet est en train de nous buter, parce que bah ouais, on est comme tout le monde, on a un album sur 2 qu'on pirate quoi. Donc on fait partie du jeu, il y a une économie qui est en train de changer, donc comment on fait? Et vu que pour les financements, la narration, toutes les choses qui nous intéressaient, c'est-à-dire qu'on était autant bercé par le cinéma indépendant contemporain japonais que le cinéma américain des années 70, ou Murnau, ou Melville, il y avait vraiment une espèce de mélange de tout un tas de choses, nous et finalement Internet va peut-être nous permettre de montrer qu'on est capable, et où là, avec les financements, on avait du mal à expliquer, mais si, on va faire un mélange de tout ça, mais ce ne sera pas une chimère, il y aura quelque chose de cohérent. Et donc on l'a mis en ligne, et là on a reçu pas mal de coups de téléphone, mais d'outre-Atlantique. En France, rien. Ok, on était absolument terrifiés, donc on est resté chez nous, cloîtré, enfermé, parce que c'était trop tôt. Mais il y a une personne en qui on a eu confiance, qui est Louis Leterrier, qui venait de finir son Hulk, et qui nous a dit, bon les gars, venez, faut qu'on parle. Donc là, il nous a fait comprendre qu'il fallait qu'on se mette au boulot, qu'il fallait qu'on écrive, parce que ça passe par là, même si effectivement on n'avait pas non plus du tout de prétention de scénariste, c'est un travail qui prend du temps, mais il faut s'y mettre. Donc il nous a appris à pitcher, pour les studios d'abord, et ensuite, bon, du temps est passé, l'expérience est passée, du clic, la pub, des rencontres, et est arrivé le tournage du Choc des Titans, et il nous a demandé, venez voir 2-3 jours, la tronche que ça a, et pour vous placer par rapport à tout ça, quoi. Et ça a été un bouleversement dans ma tête, parce qu'on s'est dit, tout le monde nous dit qu'on a tort depuis 10 piges, et en fait on fait la même chose sans thune. Donc, et nous a dit, bon bah voilà, maintenant c'est ce que t'as à faire. On est rentré, on a gratté, et on a lu un max de bouquins, de BD. On a écrit une dizaine de scripts, avec, donc en gros, je dis jamais je, parce qu'on est toute une équipe en fait, pour faire ce genre de film, c'est impossible, voilà. Face à Solo, donc j'avais, on va dire, 2-3 très proches collaborateurs, donc Fabien Dubois qui est là, Samuel Baudin, et tout un tas d'autres qui nous ont rejoints par la suite. Et est ressorti de cette écriture une adaptation, à l'époque non officielle, de Welcome to Oxford, une bande dessinée de Ben Dapplesmith, éditée chez IDW aux États-Unis et chez Delcourt Comics en France. Et ça a été ouais, une énorme plaque. Le gars avait fait 30 jours de nuit. On voulait un projet court qui puisse correspondre au format donc pilote. En France, c'est quoi un pilote? Vous racontez rien, et en fait ça veut rien dire. Enfin, le truc du mais je ne comprends pas ce que c'est. Alors que partout dans le reste du monde, si on fait pas ça, on fait pas de film. Donc on a lancé toutes les démarches avec Ben pour pouvoir acquérir des droits. Évidemment, C'est là qu'on découvre la place cachée du bordel absolu des droits au niveau international, où les studios, en gros, achètent des maisons d'édition indépendantes, en font des boîtes de management ou de développement, et du coup, bloquent tout ce qui... tous les droits, quoi. Et ça, c'est la faute à Star Wars. Tout le monde a reçu Star Wars, tout le monde a dit non, sauf le mec qui a dit oui, et les autres pleurent des larmes de sang. Parce qu'ils sont pauvres. Et donc, du coup, on ne veut plus jamais ça. On bloque tant de millions chaque année, on obtient tout ce qui tombe, tout ce qui est plus ou moins correct, et on réfléchit à comment gérer.